Le rouge et le noir, chapitre 23. Chagrin d'un fonctionnaire. Il piacere di alzar la testa tutto l'anno e ben pagato da certi quanti d'ora che bisogna passar. Casti. Mais laissons ce pauvre homme à ses petites craintes. Pourquoi a-t-il pris dans sa maison un homme de cœur, tandis qu'il lui fallait l'âme d'un valet? Que ne sait-il choisir ces gens? La marche ordinaire du XIXe siècle est que, quand un être puissant et noble rencontre un homme de cœur, il le tue, l'exile, l'emprisonne ou l'humilie tellement que l'autre a la sottise d'en mourir de douleur. Par hasard, ici, ce n'est pas encore l'homme de cœur qui souffre. Le grand malheur des petites villes de France et des gouvernements par élection, comme celui de New York, c'est de ne pas pouvoir oublier qu'il existe au monde des êtres comme M. de Rênal. Au milieu d'une ville de 20 000 habitants, ces hommes font l'opinion publique, et l'opinion publique est terrible dans un pays qui a la charte. Un homme doué d'une âme noble, généreuse, et qui eût été votre ami, mais qui habite à 100 lieues, juge de vous par l'opinion publique de votre ville, laquelle est faite par les sots que le hasard a fait naître nobles, riches et modérés. Malheur à qui se distingue. Aussitôt après le dîner, on repartit pour Vergy. Mais dès le surlendemain, Julien vit revenir toute la famille à Verrières. Une heure ne s'était pas écoulée qu'à son grand étonnement, il découvrit que Madame de Rênal lui faisait mystère de quelque chose. Elle interrompait ses conversations avec son mari dès qu'il paraissait, et semblait presque désirer qu'il s'éloignât. Julien ne se fit pas donner deux fois cet avis. Il devint froid et réservé. Madame de Rênal s'en aperçut et ne chercha pas d'explication. « Va-t-elle me donner un successeur ?» pensa Julien. « Avant-hier encore, si intime avec moi. Mais on dit que c'est ainsi que ces grandes dames en agissent. C'est comme les rois. » Jamais plus de prévenance qu'au ministre qui, en rentrant chez lui, va trouver sa lettre de disgrâce. Julien remarqua que dans ses conversations, qui cessaient brusquement à son approche, il était souvent question d'une grande maison appartenant à la commune de Verrières, vieille, mais vaste et commode, et située vis-à-vis l'église, dans l'endroit le plus marchand de la ville. Que peut-il y avoir de commun entre cette maison et un nouvel amant, se disait Julien. Dans son chagrin, il se répétait ces jolis vers de François Ier, qui lui semblaient nouveaux, parce qu'il n'y avait pas un mois que Madame de Rênal les lui avait appris. Alors, par combien de serments, par combien de caresses, chacun de ces vers n'était-il pas démenti? Souvent, femme varie. Bien folle qui s'y fit. Monsieur de Rênal partit en poste pour Besançon. Ce voyage se décida en 2 heures. Il paraissait fort tourmenté. Au retour, il jeta un gros paquet couvert de papier gris sur la table. « Voilà cette sotte affaire, » dit-il à sa femme. Une heure après, Julien vit l'afficheur qui emportait ce gros paquet. Il le suivit avec empressement. « Je vais savoir le secret au premier coin de rue. » Il attendait, impatient, derrière l'afficheur, qui, avec son gros pinceau, barbouillait le dos de l'affiche. À peine fut-elle en place, que la curiosité de Julien y vit l'annonce fort détaillée de la location aux enchères publiques de cette grande et vieille maison, dont le nom revenait si souvent dans les conversations de M. de Rênal avec sa femme. L'adjudication du bail était annoncée pour le lendemain à 2 heures, en la salle de la commune, à l'extinction du 3e feu. Julien fut fort désappointé. Il trouvait bien le délai un peu court. Comment tous les concurrents auraient-ils le temps d'être avertis? Mais du reste, cette affiche, qui était datée de 15 jours auparavant et qu'il relut tout entière en 3 endroits différents, ne lui apprenait rien. Il alla visiter la maison à louer. Le portier, ne le voyant pas approcher, disait mystérieusement à un voisin « Bah, peine perdue. Monsieur Massion lui a promis qu'il l'aura pour 300 francs, et comme le maire regimbait, il a été mandé à l'évêché par monsieur le grand vicaire de Frilair. » L'arrivée de Julien eut l'air de déranger beaucoup les deux amis, qui n'ajoutèrent plus un mot. Julien ne manqua pas l'adjudication du bail. Il y avait foule dans une salle mal éclairée, mais tout le monde se toisait d'une façon singulière. Tous les yeux étaient fixés sur une table où Julien aperçut, dans un plat d'étain, trois petits bouts de bougie allumés. L'huissier criait « 300 francs, messieurs !»«
300 francs, c'est trop fort !»
dit un homme à voix basse à son voisin. Et Julien était entre deux.
« Elle en vaut plus de 800. Je veux couvrir cette enchère. »
C'est craché en l'air. Que gagneras-tu à te mettre à dos monsieur Massion, monsieur Valneau, l'évêque, son terrible grand vicaire de Frilair et toute la clique?
320 francs,
dit l'autre en criant.
Vilaine bête,
répliqua son voisin. Et voilà justement un espion du maire, ajouta-t-il en montrant Julien. Julien se retourna vivement pour punir ce propos. Mais les deux franc-comtois ne faisaient plus aucune attention à lui. Leur sang-froid lui rendit le sien. En ce moment, le dernier bout de bougie s'éteignit et la voix traînante de l'huissier adjugeait la maison pour 9 ans à monsieur de Saint-Giraud, chef de bureau à la préfecture de Hun, et pour 330 francs. Dès que le maire fut sorti de la salle, les propos commencèrent.
« Voilà 30 francs que l'imprudence de Grosjean vaut à la commune, » disait l'un. « Mais monsieur de Saint-Giraud, » répondait-on, « se vengera de Grosjean, il la sentira passer. »« Quelle infamie !» disait un gros homme à la gauche de Julien. « Une maison dont j'aurais donné, moi, 800 francs pour ma fabrique, et j'aurais fait un bon marché. »«
Bah !» lui répondait un jeune fabricant libéral. « Monsieur de Saint-Giraud n'est-il pas de la congrégation? Ses 4 enfants n'ont-ils pas des bourses? Le pauvre homme! Il faut que la commune de Verrières lui fasse un supplément de traitement de 500 francs, voilà tout. »
« Et dire que le maire n'a pas pu l'empêcher ?» remarquait un troisième. « Car il est ultra, lui, à la bonne heure, mais il ne vole pas. »«
Il ne vole pas ?» reprit un autre.
« Non, c'est Pigeon qui vole. » Tout cela entre dans une grande bourse commune et tout se partage au bout de l'an. Mais voilà ce petit Sorel, allons-nous-en. »
Julien rentra de très mauvaise humeur. Il trouva madame de Rênal fort triste.
« Vous venez de l'adjudication ? » lui dit-elle.
« Oui, madame, où j'ai eu l'honneur de passer pour l'espion de monsieur le maire. »
« S'il m'avait cru, il eût fait un voyage. »
À ce moment, monsieur de Rênal parut. Il était fort sombre. Le dîner se passa sans mot dire. Monsieur de Rênal ordonna à Julien de suivre les enfants à Vergy. Le voyage fut triste. Madame de Rênal consolait son mari.
« Vous devriez y être accoutumé, mon ami !»
Le soir, on était assis en silence autour du foyer domestique. Le bruit du hêtre enflammé était la seule distraction. C'était un des moments de tristesse qui se rencontrent dans les familles les plus unies. Un des enfants s'écria joyeusement « On sonne ! On sonne !»«
Morbleu ! Si c'est monsieur de Saint-Giraud qui vient me relancer sous prétexte de remerciement, » s'écria le maire, « je lui dirai son fait. C'est trop fort. C'est au Valneau qu'il en aura l'obligation, et c'est moi qui suis compromis. Que dire si ces maudits journaux jacobins vont s'emparer de cette anecdote et faire de moi un monsieur 95 ?»
Un fort bel homme, au gros favori noir, entrait en ce moment à la suite du domestique.
« Monsieur le maire, je suis il signor Geronimo. Voici une lettre que monsieur le chevalier de Beauvaisis, attaché à l'ambassade de Naples, m'a remise pour vous à mon départ. »
« Il n'y a que 9 jours, » ajouta le signor Geronimo d'un air gai en regardant madame de Rênal.
« Le signor de Beauvaisis, votre cousin, et mon bon ami, madame, dit que vous savez l'italien. »
La bonne humeur du Napolitain
changea cette triste soirée en une soirée fort gaie. Madame de Rênal voulut absolument lui donner à souper. Elle mit toute sa maison en mouvement. Elle voulait à tout prix distraire Julien de la qualification d'espion que, deux fois dans cette journée, il avait entendu retentir à son oreille. Le signor Geronimo était un chanteur célèbre, homme de bonne compagnie et cependant fort gai, qualité qui, en France, ne sont guère plus compatibles. Il chanta, après souper, un petit duettino avec madame de Rênal. Il fit des contes charmants. À 1 heure du matin, les enfants se récrièrent quand Julien leur proposa d'aller se coucher. « Encore cette histoire !» dit l'aîné. « C'est la mienne, signorino !» reprit il signor Geronimo. « Il y a 8 ans, j'étais comme vous un jeune élève du conservatoire de Naples. J'entends, j'avais votre âge. Mais je n'avais pas l'honneur d'être le fils de l'illustre maire de la jolie ville de Verrières. » Ce mot fit soupirer monsieur de Rênal. Il regarda sa femme. « Le signor Zingarelli, continua le jeune chanteur, outrant un peu son accent qui faisait pouffer de rire les enfants. Le signor Zingarelli était un maître excessivement sévère. Il n'est pas aimé au conservatoire, mais il veut qu'on agisse toujours comme si on l'aimait. Je sortais le plus souvent que je pouvais. J'allais au petit théâtre de San Carlino, où j'entendais une musique des dieux. Mais, ô ciel, comment faire pour réunir les 8 sous que coûte l'entrée du parterre ? Somme énorme ! Dit-il en regardant les enfants. Et les enfants de rire. Le signor Giovannone, directeur de San Carlino, m'entendit chanter. J'avais 16 ans. « Cet enfant, il est un trésor !» dit-il. « Veux-tu que je t'engage, mon cher ami » vint-il me dire. « Et combien me donnerez-vous » « 40 ducats par mois. Messieurs, c'est 160 francs. » Je crus voir les cieux ouverts. « Mais comment ?» dis-je à Giovannone, « obtenir que le sévère Zingarelli me laisse sortir ?»« Lascia fare a me !»« Laissez faire à moi !» s'écria l'aîné des enfants. « Justement, mon jeune seigneur, le signor Giovannone, il me dit, « Caro, d'abord un petit bout d'engagement. » Je signe, il me donne 3 ducats. Jamais je n'avais vu tant d'argent. Ensuite, il me dit ce que je dois faire. Le lendemain, je demande une audience au terrible signor Zingarelli. Son vieux valet de chambre me fait entrer. « Que me veux-tu, mauvais sujet ?» dit Zingarelli. « Maestro, lui fis-je, je me repens de mes fautes. Jamais je ne sortirai du conservatoire en passant par-dessus la grille de fer. Je vais redoubler d'application. Si je ne craignais pas de gâter la plus belle voix de basse que j'ai jamais entendue, je te mettrai en prison au pain et à l'eau pour 15 jours, polisson. Maestro, repris-je, je vais être le modèle de toute l'école. Credete a me. Mais je vous demande une grâce. Si quelqu'un vient me demander pour chanter dehors, refusez-moi. De grâce, dites que vous ne pouvez pas. « Eh, qui diable veux-tu qui demande un mauvais garçon tel que toi ? Est-ce que je permettrai jamais que tu quittes le conservatoire ? Est-ce que tu veux te moquer de moi ? Décampe ! Décampe ! » dit-il en cherchant à me donner un coup de pied au... « Ou gare le pain sec et la prison !» 1 heure après, le signor Giovannone arrive chez le directeur. « Je viens vous demander de faire ma fortune, lui dit-il. « Accordez-moi Geronimo. » Qu'il chante à mon théâtre, et cet hiver, je marie ma fille. « Que veux-tu faire de ce mauvais sujet ?» lui dit Zingarelli. « Je ne veux pas, tu ne l'auras pas. Et d'ailleurs, quand j'y consentirai, jamais il ne voudra quitter le conservatoire. Il vient de me le jurer. » « Si ce n'est que de sa volonté qu'il s'agit, » dit gravement Giovannone, en tirant de sa poche mon engagement. « Carta conta, voici sa signature. » Aussitôt, Zingarelli, furieux, se pend à sa sonnette. « Qu'on chasse Geronimo du conservatoire » cria-t-il, bouillant de colère. « On me chassa donc, moi, riant aux éclats. »
Le même soir, je chantais l'air d'El Moltiplico. Polichinelle veut se marier et compte sur ses doigts les objets dont il aura besoin dans son ménage. Et il s'embrouille à chaque instant dans ce calcul.
« Ah, veuillez, monsieur, nous chanter cet air !» dit madame de Rênal.
Geronimo chanta, et tout le monde pleurait à force de rire. Il signore Geronimo n'alla se coucher qu'à 2 heures du matin, laissant cette famille enchantée de ses bonnes manières, de sa complaisance et de sa gaieté. Le lendemain, monsieur et madame de Rênal lui remirent les lettres dont il avait besoin à la cour de France.
« Ainsi, partout de la fausseté !» dit Julien.
« Voilà il signore Geronimo qui va à Londres avec 60 000 francs d'appointement. Sans le savoir-faire du directeur de San Carlino, sa voix divine eût peut-être été connue et admirée que 10 ans plus tard. Ma foi, j'aimerais mieux être un Geronimo qu'un Rênal. Il n'est pas si honoré dans la société. » Mais il n'a pas le chagrin de faire des adjudications comme celle d'aujourd'hui, et sa vie est gaie. Une chose étonnait Julien. Les semaines solitaires passées à Verrières, dans la maison de M. de Rênal, avaient été pour lui une époque de bonheur. Il n'avait rencontré le dégoût et les tristes pensées qu'au dîner qu'on lui avait donné. Dans cette maison solitaire, ne pouvait-il pas lire, écrire, réfléchir sans être troublé? À chaque instant, il n'était pas tiré de ses rêveries brillantes par la cruelle nécessité d'étudier les mouvements d'une âme basse, et encore afin de la tromper par des démarches ou des mots hypocrites. Le bonheur serait-il si près de moi? La dépense d'une telle vie est peu de choses. Je puis à mon choix épouser Mademoiselle Elisa ou me faire l'associer de Fouquet. Mais le voyageur qui vient de gravir une montagne rapide s'assied au sommet et trouve un plaisir parfait à se reposer. Serait-il heureux si on le forçait à se reposer toujours? L'esprit de madame de Rênal était arrivé à des pensées fatales. Malgré ses résolutions, elle avait avoué à Julien toute l'affaire de l'adjudication. « Il me fera donc oublier tous mes serments, » pensait-elle. Elle eût sacrifié sa vie sans hésiter pour sauver celle de son mari, si elle l'eût vue en péril. C'était une de ces âmes nobles et romanesques pour qui, apercevoir la possibilité d'une action généreuse et ne pas la faire, est la source d'un remords presque égal à celui du crime commis. Toutefois, il y avait des jours funestes, où elle ne pouvait chasser l'image de l'excès de bonheur qu'elle goûterait, si, devenant veuve tout à coup, elle pouvait épouser Julien. Il aimait ses fils beaucoup plus que leur père. Malgré sa justice sévère, il en était adoré. Elle sentait bien qu'épousant Julien, il fallait quitter ce Vergy dont les ombrages lui étaient si chers. Elle se voyait vivant à Paris, continuant à donner à ses fils cette éducation qui faisait l'admiration de tout le monde. Ses enfants, elle, Julien, tous étaient parfaitement heureux. Étrange effet du mariage, tel que l'a fait le 19e siècle. L'ennui de la vie matrimoniale fait périr l'amour sûrement, quand l'amour a précédé le mariage. Et cependant, dirait un philosophe, il amène bientôt chez les gens assez riches pour ne pas travailler l'ennui profond de toutes les jouissances tranquilles. Et ce n'est que les âmes sèches parmi les femmes qu'il ne prédispose pas à l'amour. La réflexion du philosophe me fait excuser madame de Rênal, mais on ne l'excusait pas à Verrières. Et toute la ville, sans qu'elle s'en doutât, n'était occupée que du scandale de ses amours. À cause de cette grande affaire, cet automne-là, on s'y ennuya moins que de coutume. L'automne, une partie de l'hiver, passèrent bien vite. Il fallut quitter les bois de Vergy. La bonne compagnie de Verrières commençait à s'indigner de ce que ces anathèmes faisaient si peu d'impression sur M. de Rênal. En moins de 8 jours, des personnes graves qui se dédommagent de leur sérieux habituel par le plaisir de remplir ces sortes de missions
lui donnèrent les soupçons les plus cruels, mais en se servant des termes les plus mesurés. Monsieur Valenod, qui jouait serré, avait placé Élisa dans une famille noble et fort considérée, et où il y avait 5 femmes. Élisa, craignant, disait-elle, de ne pas trouver de place pendant l'hiver, n'avait demandé à cette famille que les 2/3 à peu près de ce qu'elle recevait chez monsieur le maire. D'elle-même, cette fille avait eu l'excellente idée d'aller se confesser à l'ancien curé Chélan et en même temps au nouveau, afin de leur raconter à tous les deux le détail des amours de Julien. Le lendemain de son arrivée, dès 6 heures du matin, l'abbé Chélan fit appeler Julien. « Je ne vous demande rien, lui dit-il. Je vous prie et au besoin je vous ordonne de ne me rien dire. J'exige que sous 3 jours vous partiez pour le séminaire de Besançon ou pour la demeure de votre ami Fouquet, qui est toujours disposé à vous faire un sort magnifique. J'ai tout prévu, tout arrangé, mais il faut partir et ne pas revenir 1 an à Verrières. » Julien ne répondit point. Il examinait si son honneur devait s'estimer offensé des soins que M. Chélan, qui après tout n'était pas son père, avait pris pour lui. « Demain, à pareille heure, j'aurai l'honneur de vous revoir, » dit-il enfin au curé. M. Chélan, qui comptait l'emporter de haute lutte sur un si jeune homme, parla beaucoup. Enveloppé dans l'attitude et la physionomie la plus humble, Julien n'ouvrit pas la bouche. Il sortit enfin et courut prévenir Madame de Rênal, qu'il trouva au désespoir. Son mari venait de lui parler avec une certaine franchise. La faiblesse naturelle de son caractère, s'appuyant sur la perspective de l'héritage de Besançon, l'avait décidé à la considérer comme parfaitement innocente. Il venait de lui avouer l'étrange état dans lequel il trouvait l'opinion publique de Verrières. Le public avait tort, il était égaré par des envieux. Mais enfin, que faire? Madame de Rênal eut un instant l'illusion que Julien pourrait accepter les offres de M. Valenod et rester à Verrières. Mais ce n'était plus cette femme simple et timide de l'année précédente. Sa fatale passion, ses remords, l'avaient éclairée. Elle eut bientôt la douleur de se prouver à elle-même, tout en écoutant son mari, qu'une séparation au moins momentanée était devenue indispensable. Loin de moi, Julien va retomber dans ses projets d'ambition si naturels quand on n'a rien. Et moi, grand Dieu, je suis si riche et si inutilement pour mon bonheur. Il m'oubliera. Aimable comme il est, il sera aimé, il aimera. Ah, malheureuse, de quoi puis-je me plaindre? Le ciel est juste. Je n'ai pas eu le mérite de faire cesser le crime. Il m'ôte le jugement. Il ne tenait qu'à moi de gagner Élisa à force d'argent. Rien ne m'était plus facile. Je n'ai pas pris la peine de réfléchir un moment. Les folles imaginations de l'amour absorbaient tout mon temps. Je péris. Julien fut frappé d'une chose en apprenant la terrible nouvelle du départ à Madame de Rênal. Il ne trouva aucune objection égoïste. Elle faisait évidemment des efforts pour ne pas pleurer. « Nous avons besoin de fermeté, mon ami. » Elle coupa une mèche de ses cheveux. « Je ne sais pas ce que je ferai, » lui dit-elle. « Mais si je meurs, promets-moi de ne jamais oublier mes enfants. De loin ou de près, tâche d'en faire d'honnêtes gens. S'il y a une nouvelle révolution, tous les nobles seront égorgés. Leur père émigrera peut-être à cause de ce paysan tué sur un toit. Veille sur la famille. Donne-moi ta main. Adieu, mon ami. Ce sont ici les derniers moments. Ce grand sacrifice fait, j'espère qu'en public j'aurai le courage de penser à ma réputation. » Julien s'attendait à du désespoir. La simplicité de ses adieux le toucha. « Non, je ne reçois pas ainsi vos adieux. Je partirai, ils le veulent, vous le voulez vous-même. Mais 3 jours après mon départ, je reviendrai vous voir de nuit. » L'existence de Madame de Rênal fut changée. Julien l'aimait donc bien, puisque de lui-même il avait trouvé l'idée de la revoir.
Son affreuse douleur se changea en un des plus vifs mouvements de joie qu'elle eût éprouvé de sa vie. Tout lui devint facile. La certitude de revoir son ami ôtait à ses derniers moments tout ce qu'ils avaient de déchirant. Dès cet instant, la conduite, comme la physionomie de Madame de Rênal, fut noble, ferme et parfaitement convenable. Monsieur de Rênal rentra bientôt. Il était hors de lui. Il parla enfin à sa femme de la lettre anonyme reçue 2 mois auparavant. « Je veux la porter au casino. Montrer à tous qu'elle est de cet infâme Valenod que j'ai pris à la besace pour en faire un des plus riches bourgeois de Verrières. Je lui en ferai honte publiquement et puis me battrai avec lui. Ceci est trop fort. »
« Je pourrais être veuve, grand Dieu !» pensa Madame de Rênal.
Mais presque au même instant, elle se dit « Si je n'empêche pas ce duel, comme certainement je le puis, je serai la meurtrière de mon mari. » Jamais elle n'avait ménagé sa vanité avec autant d'adresse. En moins de 2 heures, elle lui fit voir, et toujours par des raisons trouvées par lui, qu'il fallait marquer plus d'amitié que jamais à M. Valenod, et même reprendre Elisa dans la maison. Madame de Rênal eut besoin de courage pour se décider à revoir cette fille, cause de tous ses malheurs, mais cette idée venait de Julien. Enfin, après avoir été mis 3 ou 4 fois sur la voie, M. de Rênal arriva, tout seul, à l'idée financièrement bien pénible, que ce qu'il y aurait de plus désagréable pour lui, ce serait que Julien, au milieu de l'effervescence et des propos de tout Verrières, y resta comme précepteur des enfants de M. Valenod. L'intérêt évident de Julien était d'accepter les offres du directeur du dépôt de mendicité. Il importait au contraire à la gloire de M. de Rênal que Julien quittât Verrières pour rentrer au séminaire de Besançon ou à celui de Dijon. Mais comment l'y décider? Et ensuite, comment y vivrait-il? Monsieur de Rênal, voyant l'imminence du sacrifice d'argent, était plus au désespoir que sa femme. Pour elle, après cet entretien, elle était dans la position d'un homme de cœur qui, las de la vie, a pris une dose de stramonium. Il n'agit plus que par ressort, pour ainsi dire, et ne porte plus d'intérêt à rien. Ainsi, il arriva à Louis XIV mourant de dire « Quand j'étais roi !» Parole admirable. Le lendemain, dès le grand matin, M. de Rênal reçut une lettre anonyme. Celle-ci était du style le plus insultant. Les mots plus grossiers, applicables à sa position, s'y voyaient à chaque ligne. C'était l'ouvrage de quelque envieux subalterne. Cette lettre le ramena à la pensée de se battre avec M. Valenod. Bientôt, son courage alla jusqu'aux idées d'exécution immédiate. Il sortit seul et alla chez l'armurier prendre des pistolets qu'il fit charger. « Au fait, se disait-il, l'administration sévère de l'empereur Napoléon reviendrait au monde, que moi je n'ai pas un sou de friponnerie à me reprocher. J'ai tout au plus fermé les yeux. » Mais j'ai de bonnes lettres dans mon bureau qui m'y autorisent. » Madame de Rênal fut effrayée de la colère froide de son mari. Elle lui rappelait la fatale idée de veuvage qu'elle avait tant de peine à repousser. Elle s'enferma avec lui. Pendant plusieurs heures, elle lui parla en vain. La nouvelle lettre anonyme le décidait. Enfin, elle parvint à transformer le courage de donner un soufflet à M. Valenod en celui d'offrir 600 francs à Julien pour une année de sa pension dans un séminaire. Monsieur de Rênal, maudissant 1000 fois le jour où il avait eu la fatale idée de prendre un précepteur chez lui, oublia la lettre anonyme. Il se consola un peu par une idée qu'il ne dit pas à sa femme. Avec de l'adresse et en se prévalant des idées romanesques du jeune homme, il espérait l'engager pour une somme moindre à refuser les offres de M. Valenod. Madame de Rênal eut bien plus de peine à prouver à Julien que, faisant aux convenances de son mari le sacrifice d'une place de 800 francs
que lui offrait publiquement le directeur du dépôt, il pouvait sans honte accepter un dédommagement. « Mais, disait toujours Julien, jamais je n'ai eu, même pour un instant, le projet d'accepter ces offres. Vous m'avez trop accoutumé à la vie élégante. La grossièreté de ces gens-là me tuerait. » La cruelle nécessité, avec sa main de fer, plia la volonté de Julien. Son orgueil lui offrait l'illusion de n'accepter que comme un prêt la somme offerte par le maire de Verrières, et de lui en faire un billet portant remboursement dans 5 ans avec intérêt. Madame de Rênal avait toujours quelques milliers de francs cachés dans la petite grotte de la montagne. Elle les lui offrit en tremblant, et sentant trop qu'elle serait refusée avec colère. « Voulez-vous, lui dit Julien, rendre le souvenir de nos amours abominables ?» Enfin Julien quitta Verrières. Monsieur de Rênal fut bien heureux. Au moment fatal d'accepter de l'argent de lui, ce sacrifice se trouva trop fort pour Julien. Il refusa net. Monsieur de Rênal lui sauta au cou les larmes aux yeux. Julien lui ayant demandé un certificat de bonne conduite, il ne trouva pas dans son enthousiasme de termes assez magnifiques pour exalter sa conduite. Notre héros avait 5 louis d'économie et comptait demander une pareille somme à Fouquet. Il était fort ému, mais à 1 lieue de Verrières, où il laissait tant d'amour, il ne songea plus qu'au bonheur de voir une capitale, une grande ville de guerre comme Besançon. Pendant cette courte absence de 3 jours, Madame de Rênal fut trompée par une des plus cruelles déceptions de l'amour. Sa vie était passable. Il y avait entre elle et l'extrême malheur cette dernière entrevue qu'elle devait avoir avec Julien. Elle comptait les heures, les minutes qui l'en séparaient. Enfin, pendant la nuit du 3e jour, elle entendit de loin le signal convenu. Après avoir traversé 1000 dangers, Julien parut devant elle. De ce moment, elle n'eut plus qu'une pensée. « C'est pour la dernière fois que je le vois. » Loin de répondre aux empressements de son amie, elle fut comme un cadavre à peine animé. Si elle se forçait à lui dire qu'elle l'aimait, c'était d'un air gauche qui prouvait presque le contraire. Rien ne put la distraire de l'idée cruelle de séparation éternelle. Le méfiant Julien crut un instant être déjà oublié. Ses mots, piqués dans ce sens, ne furent accueillis que par de grosses larmes coulant en silence et des serrements de mains presque convulsifs. « Mais grand Dieu, comment voulez-vous que je vous croie ?» répondit Julien aux froides protestations de son ami. « Vous montreriez 100 fois plus d'amitié sincère à Madame Derville, à une simple connaissance. » Madame de Rênal, pétrifiée, ne savait que répondre. « Il est impossible d'être plus malheureuse. J'espère que je vais mourir. Je sens mon cœur se glacer. » Telles furent les réponses les plus longues qu'il put en obtenir. Quand l'approche du jour vint rendre le départ nécessaire, les larmes de Madame de Rênal cessèrent tout à fait. Elle le vit attacher une corde nouée à la fenêtre, sans maudire, sans lui rendre ses baisers. En vain, Julien lui disait « Nous voici arrivés à l'état que vous avez tant souhaité. Désormais, vous vivrez sans remords. À la moindre indisposition de vos enfants, vous ne les verrez plus dans la tombe. Je suis fâchée que vous ne puissiez pas embrasser Stanislas, » lui dit-elle froidement. Julien finit par être profondément frappé des embrassements sans chaleur de ce cadavre vivant. Il ne put penser à autre chose pendant plusieurs lieues. Son âme était navrée. Et avant de passer la montagne, tant qu'il put voir le clocher de l'église de Verrières, souvent il se retourna. Chapitre 24. Une capitale. Que de bruit, que de gens affairés, que d'idées pour l'avenir dans une tête de 20 ans, quelle distraction pour l'amour. Barnave. Enfin, il aperçut, sur une montagne lointaine, des murs noirs. C'était la citadelle de Besançon. « Quelle différence pour moi !»
dit-il en soupirant. Si j'arrivais dans cette noble ville de guerre pour être sous-lieutenant dans un des régiments chargés de la défendre. Besançon n'est pas seulement une des plus jolies villes de France, elle a bon dans gens de cœur et d'esprit. Mais Julien n'était qu'un petit paysan et n'eut aucun moyen d'approcher les hommes distingués. Il avait pris chez Fouquet un habit bourgeois, et c'est dans ce costume qu'il passa les ponts-levis. Plein de l'histoire du siège de 1674, il voulut voir, avant de s'enfermer au séminaire, les remparts et la citadelle. Deux ou trois fois, il fut sur le point de se faire arrêter par les sentinelles. Il pénétrait dans des endroits que le génie militaire interdit au public, afin de vendre pour 12 ou 15 francs de foin tous les ans. La hauteur des murs, la profondeur des fossés, l'air terrible des canons l'avaient préoccupé pendant plusieurs heures. Lorsqu'il passa devant le grand café sur le boulevard, il resta immobile d'admiration. Il avait beau lire le mot « café » écrit en gros caractères au-dessus des deux immenses portes, il ne pouvait en croire ses yeux. Il fit effort sur sa timidité. Il osa entrer et se trouva dans une salle longue de 30 ou 40 pas et dont le plafond était élevé de 20 pieds au moins. Ce jour-là, tout était enchantement pour lui. Deux parties de billard étaient en train. Les garçons criaient les points. Les joueurs couraient autour des billards encombrés de spectateurs. Des flots de fumée de tabac, s'élançant de la bouche de tous, les enveloppaient de nuages bleus. La haute stature de ces hommes, leurs épaules arrondies, leurs démarches lourdes, leurs énormes favoris, les longues redingotes qui les couvraient, tout attirait l'attention de Julien. Ces nobles enfants de l'antique Byzantium ne parlaient qu'en criant. Ils se donnaient l'air de guerriers terribles. Julien admirait, immobile. Il songeait à l'immensité et à la magnificence d'une grande capitale telle que Besançon. Il ne se sentait nullement le courage de demander une tasse de café à un de ces messieurs au regard hautain qui criait les points du billard. Mais la demoiselle du comptoir avait remarqué la charmante figure de ce jeune bourgeois de campagne qui, arrêté à 3 pas du poêle et son petit paquet sous le bras, considérait le buste du roi en beau plâtre blanc. Cette demoiselle, grande franc-comtoise, fort bien faite et mise comme il faut pour faire valoir un café, avait déjà dit 2 fois, d'une petite voix qui cherchait à n'être entendue que de Julien, « Monsieur, monsieur !» Julien rencontra de grands yeux bleus fort tendres et vit que c'était à lui qu'on parlait. Il s'approcha vivement du comptoir et de la jolie fille, comme il eût marché à l'ennemi. Dans ce grand mouvement, son paquet tomba. Quelle pitié notre provincial ne va-t-il pas inspirer aux jeunes lycéens de Paris, qui, à 15 ans, savent déjà entrer dans un café d'un air si distingué. Mais ces enfants, si bien stylés à 15 ans, à 18 tournent au commun. La timidité passionnée que l'on rencontre en province se surmonte quelquefois, et alors enseigne à vouloir. En s'approchant de cette jeune fille si belle qui daignait lui adresser la parole, « Il faut que je lui dise la vérité, » pensa Julien, qui devenait courageux à force de timidité vaincue. « Madame, je viens pour la première fois de ma vie à Besançon. Je voudrais bien avoir, en payant, un pain et une tasse de café. » La demoiselle sourit un peu et puis rougit. Elle craignait, pour ce joli jeune homme, l'attention ironique et les plaisanteries des joueurs du billard. Il serait effrayé et ne reparaîtrait plus. « Placez-vous ici près de moi, » dit-elle en lui montrant une table de marbre, presque tout à fait cachée par l'énorme comptoir d'acajou qui s'avance dans la salle. La demoiselle se pencha en dehors du comptoir, ce qui lui donna l'occasion de déployer une taille superbe. Julien la remarqua. Toutes ses idées changèrent. La belle demoiselle venait de placer devant lui une tasse, du sucre et un petit pain.
Elle hésitait à appeler un garçon pour avoir du café, comprenant bien qu'à l'arrivée de ce garçon, son tête-à-tête avec Julien allait finir. Julien, pensif, comparait cette beauté blonde et gaie à certains souvenirs qui l'agitaient souvent. L'idée de la passion dont il avait été l'objet lui ôta presque toute sa timidité. La belle demoiselle n'avait qu'un instant. Elle lut dans les regards de Julien. « Cette fumée de pipe vous fait tousser. Venez déjeuner demain avant 8 heures du matin. Alors je suis presque seule. »«
Quel est votre nom ?» dit Julien avec le sourire caressant de la timidité heureuse.
« Amanda Binet. »
« Permettez-vous que je vous envoie dans 1 heure un petit paquet gros comme celui-ci ?»
La belle Amanda réfléchit un peu. « Je suis surveillée. Ce que vous me demandez peut me compromettre. Cependant, je m'en vais écrire mon adresse sur une carte que vous placerez sur votre paquet. Envoyez-le-moi hardiment. »
« Je m'appelle Julien Sorel, » dit le jeune homme. « Je n'ai ni parents ni connaissances à Besançon. »
« Ah, je comprends, » dit-elle avec joie. « Vous venez pour l'école de droit ?»«
Hélas, non, » répondit Julien. « On m'envoie au séminaire. »
Le découragement le plus complet éteignit les traits d'Amanda. Elle appela un garçon. Elle avait du courage maintenant. Le garçon versa du café à Julien sans le regarder. Amanda recevait de l'argent au comptoir. Julien était fier d'avoir osé parler. On se disputa à l'un des billards. Les cris et les démentis des joueurs, retentissant dans cette salle immense, faisaient un tapage qui étonnait Julien. Amanda était rêveuse et baissait les yeux.
« Si vous voulez, mademoiselle, lui dit-il tout à coup avec assurance, je dirais que je suis votre cousin. »
Ce petit air d'autorité plut à Amanda. « Ce n'est pas un jeune homme de rien, » pensa-t-elle. Elle lui dit fort vite, sans le regarder, car son œil était occupé à voir si quelqu'un s'approchait du comptoir.
« Moi, je suis de Genly, près de Dijon. Dites que vous êtes aussi de Genly et cousin de ma mère. »
« Je n'y manquerai pas. »
Tous les jeudis, à 5 heures, en été, messieurs les séminaristes passent ici devant le café.
« Si vous pensez à moi, quand je passerai, ayez un bouquet de violettes à la main. »
Amanda le regarda d'un air étonné. Ce regard changea le courage de Julien en témérité. Cependant, il rougit beaucoup en lui disant
« Je sens que je vous aime de l'amour le plus violent. »«
Parlez donc plus bas !» lui dit-elle d'un air effrayé.
Julien songeait à se rappeler les phrases d'un volume dépareillé de la nouvelle Héloïse qu'il avait trouvée à Vergy. Sa mémoire le servit bien. Depuis 10 minutes, il récitait la nouvelle Héloïse à mademoiselle Amanda, ravie. Il était heureux de sa bravoure, quand tout à coup la belle franc-comtoise prit un air glacial. Un de ses amants paraissait à la porte du café. Il s'approcha du comptoir, en sifflant et marchant des épaules. Il regarda Julien. À l'instant, l'imagination de celui-ci, toujours dans les extrêmes, ne fut remplie que d'idées de duel. Il pâlit beaucoup, éloigna sa tasse, prit une mine assurée et regarda son rival fort attentivement. Comme ce rival baissait la tête en se versant familièrement un verre d'eau-de-vie sur le comptoir, d'un regard, Amanda ordonna à Julien de baisser les yeux. Il obéit, et pendant 2 minutes se tint immobile à sa place, pâle, résolu, et ne songeant qu'à ce qui allait arriver. Il était vraiment bien en cet instant. Le rival avait été étonné des yeux de Julien. Son verre d'eau-de-vie avalé d'un trait, il dit un mot à Amanda, plaça ses 2 mains dans les poches de sa grosse redingote et s'approcha d'un billard, en sifflant et regardant Julien. Celui-ci se leva, transporté de colère, mais il ne savait comment s'y prendre pour être insolent. Il posa son petit paquet et, de l'air le plus dandinant qu'il put, marcha vers le billard.
En vain, la prudence lui disait « Mais avec un duel dès l'arrivée à Besançon, la carrière ecclésiastique est perdue. Qu'importe, il ne sera pas dit que je manque un insolent. » Amanda vit son courage. Il faisait un joli contraste avec la naïveté de ses manières. En un instant, elle le préféra au grand jeune homme en redingote. Elle se leva, et tout en ayant l'air de suivre de l'œil quelqu'un qui passait dans la rue, elle vint se placer rapidement entre lui et le billard. « Gardez-vous de regarder de travers ce monsieur, c'est mon beau-frère. »« Que m'importe, il m'a regardé. »« Voulez-vous me rendre malheureuse ? Sans doute il vous a regardé, peut-être même il va venir vous parler. Je lui ai dit que vous êtes un parent de ma mère et que vous arrivez de Genlis. Lui est franc-comtois et n'a jamais dépassé Dôle sur la route de la Bourgogne. Ainsi, dites ce que vous voudrez et ne craignez rien. » Julien hésitait encore. Elle ajouta bien vite, son imagination de dame de comptoir lui fournissant des mensonges en abondance. « Sans doute il vous a regardé, mais c'est au moment où il me demandait qui vous êtes. C'est un homme qui est manant avec tout le monde. Il n'a pas voulu vous insulter. » L'œil de Julien suivait le prétendu beau-frère. Il le vit acheter un numéro à la poule que l'on jouait au plus éloigné des deux billards. Julien entendit sa grosse voix qui criait, d'un ton menaçant, « Je prends affaire !» Il passa vivement derrière Mademoiselle Amanda et fit un pas vers le billard. Amanda le saisit par le bras. « Venez me payer d'abord !» lui dit-elle. « C'est juste !» pensa Julien. « Elle a peur que je ne sorte sans payer. » Amanda était aussi agitée que lui et fort rouge. Elle lui rendit de la monnaie le plus lentement qu'elle put, tout en lui répétant à voix basse « Sortez à l'instant du café, ou je ne vous aime plus. Et cependant, je vous aime bien. » Julien sortit, en effet, mais lentement. « N'est-il pas de mon devoir, se répétait-il, d'aller regarder à mon tour ce grossier personnage ?» Cette incertitude le retint une heure sur le boulevard devant le café. Il regardait si son homme sortait. Il ne parut pas, et Julien s'éloigna. Il n'était à Besançon que depuis quelques heures, et déjà il avait conquis un remords. Le vieux chirurgien-major lui avait donné autrefois, malgré sa goutte, quelques leçons d'escrime. Telle était toute la science que Julien trouvait au service de sa colère. Mais cet embarras n'eût rien été s'il eût su comment se fâcher autrement qu'en donnant un soufflet. Et si l'on en venait au coup de poing, son rival, homme énorme, l'eût battu et puis planté là. « Pour un pauvre diable comme moi, se dit Julien, sans protecteur et sans argent, il n'y aura pas grande différence entre un séminaire et une prison. Il faut que je dépose mes habits bourgeois dans quelque auberge, où je reprendrai mon habit noir. Si jamais je parviens à sortir du séminaire pour quelques heures, je pourrai fort bien, avec mes habits bourgeois, revoir Mademoiselle Amanda. » Ce raisonnement était beau, mais Julien, passant devant toutes les auberges, n'osait entrer dans aucune. Enfin, comme il repassait devant l'hôtel des ambassadeurs, ses yeux inquiets rencontrèrent ceux d'une grosse femme, encore assez jeune, haute en couleur, à l'air heureux et gai. Il s'approcha d'elle et lui raconta son histoire. « Certainement, mon joli petit abbé, lui dit l'hôtesse des ambassadeurs, je vous garderai vos habits bourgeois et même les ferait épousseter souvent. De ce temps-ci, il ne fait pas bon laisser un habit de drap sans le toucher. » Elle prit une clé et le conduisit elle-même dans une chambre, en lui recommandant d'écrire la note de ce qu'il laissait. « Bon Dieu, que vous avez bonne mine comme ça, monsieur l'abbé Sorel !» lui dit la grosse femme quand il descendit à la cuisine. « Je m'en vais vous faire servir un bon dîner. » Et ajouta-t-elle à voix basse. « Il ne vous coûtera que 20 sous, au lieu de 50 que tout le monde paye, car il faut bien ménager votre petit boursicot. » « J'ai 10 louis, répliqua Julien avec une certaine fierté. « Ah, mon Dieu !» répondit la bonne hôtesse alarmée.
Ne parlez pas si haut. Il y a bien des mauvais sujets dans Besançon. On vous volera cela en moins de rien. Surtout, n'entrez jamais dans les cafés. Ils sont remplis de mauvais sujets.
Vraiment ? Dit Julien, à qui ce mot donnait à penser.
Ne venez jamais que chez moi, je vous ferai du café. Rappelez-vous que vous trouverez toujours ici une amie et un bon dîner à 20 sous.
C'est parlé, ça, j'espère.
Allez vous mettre à table, je vais vous servir moi-même.
Je ne saurais manger, lui dit Julien. Je suis trop ému. Je vais entrer au séminaire en sortant de chez vous.
La bonne femme ne le laissa partir qu'après avoir rempli ses poches de provisions. Enfin, Julien s'achemina vers le lieu terrible. L'hôtesse, de dessus sa porte, lui en indiquait la route. Chapitre 25. Le séminaire. 336 dîners à 83 centimes, 336 soupers à 38 centimes, du chocolat acquis de droit, combien y a-t-il à gagner sur la soumission ? Le Valenod de Besançon. Il vit de loin la croix de fer dorée sur la porte. Il approcha lentement. Ses jambes semblaient se dérober sous lui.
Voilà donc cet enfer sur la terre, dont je ne pourrais sortir.
Enfin, il se décida à sonner. Le bruit de la cloche retentit comme dans un lieu solitaire. Au bout de 10 minutes, un homme pâle, vêtu de noir, vint lui ouvrir. Julien le regarda et aussitôt baissa les yeux. Ce portier avait une physionomie singulière. La pupille saillante et verte de ses yeux s'arrondissait comme celle d'un chat. Les contours immobiles de ses paupières annonçaient l'impossibilité de toute sympathie. Ses lèvres minces se développaient en demi-cercle sur des dents qui avançaient. Cependant, cette physionomie ne montrait pas le crime, mais plutôt cette insensibilité parfaite qui inspire bien plus de terreur à la jeunesse. Le seul sentiment que le regard rapide de Julien put deviner sur cette longue figure dévote fut un mépris profond pour tout ce dont on voudrait lui parler et qui ne serait pas de l'intérêt du ciel. Julien releva les yeux avec effort, et d'une voix que le battement de cœur rendait tremblante, il expliqua qu'il désirait parler à M. Pirard, le directeur du séminaire. Sans dire une parole, l'homme noir lui fit signe de le suivre. Ils montèrent 2 étages par un large escalier à rampe de bois, dont les marches déjetées penchaient tout à fait du côté opposé au mur et semblaient prêtes à tomber. Une petite porte, surmontée d'une grande croix de cimetière en bois blanc peint en noir, fut ouverte avec difficulté, et le portier le fit entrer dans une chambre sombre et basse, dont les murs blanchis à la chaux étaient garnis de 2 grands tableaux noircis par le temps. Là, Julien fut laissé seul. Il était atterré, son cœur battait violemment. Il eût été heureux d'oser pleurer. Un silence de mort régnait dans toute la maison. Au bout d'un quart d'heure, qui lui parut une journée, le portier à figure sinistre reparut sur le pas d'une porte à l'autre extrémité de la chambre et, sans daigner parler, lui fit signe d'entrer. Il entra dans une pièce encore plus grande que la première et fort mal éclairée. Les murs aussi étaient blanchis, mais il n'y avait pas de meubles. Seulement, dans un coin, près de la porte, Julien vit en passant un lit de bois blanc, 2 chaises de paille et un petit fauteuil en planche de sapin sans coussin. À l'autre extrémité de la chambre, près d'une petite fenêtre à vitres jaunies, garnie de vases de fleurs tenus salement, il aperçut un homme assis devant une table et couvert d'une soutane délabrée. Il avait l'air en colère et prenait l'un après l'autre une foule de petits carrés de papier qu'il rangeait sur sa table après y avoir écrit quelques mots. Il ne s'apercevait pas de la présence de Julien. Celui-ci était immobile, debout vers le milieu de la chambre, là où l'avait laissé le portier, qui était ressorti en fermant la porte. 10 minutes se passèrent ainsi. L'homme mal vêtu écrivait toujours. L'émotion et la terreur de Julien étaient telles qu'il lui semblait être sur le point de tomber. Un philosophe eût dit, peut-être en se trompant,
c'est la violente impression du lait sur une âme faite pour aimer ce qui est beau. »
L'homme qui écrivait leva la tête. Julien ne s'en aperçut qu'au bout d'un moment, et même après l'avoir vu, il restait encore immobile, comme frappé à mort par le regard terrible dont il était l'objet. Les yeux troublés de Julien distinguaient à peine une figure longue et toute couverte de taches rouges, excepté sur le front, qui laissait voir une pâleur mortelle. Entre ses joues rouges et ce front blanc, brillaient deux petits yeux noirs faits pour effrayer le plus brave. Les vastes contours de ce front étaient marqués par des cheveux épais, plats et d'un noir de jais.
« Voulez-vous approcher, oui ou non ?» dit enfin cet homme avec impatience. Julien s'avança d'un pas mal assuré et enfin, prêt à tomber et pâle, comme de sa vie il ne l'avait été, il s'arrêta à trois pas de la petite table de bois blanc couverte de carrés de papier.
« Plus près !» dit l'homme. Julien s'avança encore en étendant la main, comme cherchant à s'appuyer sur quelque chose.
« Votre nom ?»
Julien Sorel.
« Vous avez bien tardé !»
lui dit-on, en attachant de nouveau sur lui un œil terrible. Julien ne put supporter ce regard. Étendant la main comme pour se soutenir, il tomba tout de son long sur le plancher. L'homme sonna. Julien n'avait perdu que l'usage des yeux et la force de se mouvoir. Il entendit des pas qui s'approchaient. On le releva, on le plaça sur le petit fauteuil de bois blanc. Il entendit l'homme terrible qui disait au portier « Il tombe du haut mal apparemment, il ne manquait plus que ça. »
Quand Julien put ouvrir les yeux, l'homme à la figure rouge continuait à écrire. Le portier avait disparu.
« Il faut avoir du courage, se dit notre héros, et surtout cacher ce que je sens. » Il éprouvait un violent mal de cœur. « S'il m'arrive un accident, Dieu sait ce qu'on pensera de moi. »
Enfin l'homme cessa d'écrire, et regardant Julien de côté, « Êtes-vous en état de me répondre ?»«
Oui, monsieur. » dit Julien d'une voix affaiblie.
« Ah, c'est heureux !»
L'homme noir s'était levé à demi et cherchait avec impatience une lettre dans le tiroir de sa table de sapin qui s'ouvrit en criant. Il la trouva, s'assit lentement et regardant de nouveau Julien d'un air à lui arracher le peu de vie qui lui restait.
« Vous m'êtes recommandé par monsieur Chélan. C'était le meilleur curé du diocèse. » « Homme vertueux s'il en fut, et mon ami depuis 30 ans. »«
Ah, c'est à monsieur Pirard que j'ai l'honneur de parler, » dit Julien d'une voix mourante.
« Apparemment, »
répliqua le directeur du séminaire en le regardant avec humeur. Il y eut un redoublement d'éclat dans ses petits yeux, suivi d'un mouvement involontaire des muscles des coins de la bouche. C'était la physionomie du tigre goûtant par avance le plaisir de dévorer sa proie.
« La lettre de Chélan est courte, » dit-il, comme se parlant à lui-même. « Intelligenti pauca. Par le temps qui court, on ne saurait écrire trop peu. »
Il lut haut. « Je vous adresse Julien Sorel, de cette paroisse que j'ai baptisée il y aura bientôt 20 ans. » Fils d'un charpentier riche, mais qui ne lui donne rien. Julien sera un ouvrier remarquable dans la vigne du Seigneur. La mémoire, l'intelligence ne manquent point. Il y a de la réflexion. Sa vocation sera-t-elle durable? Est-elle sincère?
Sincère, répéta l'abbé Pirard d'un air étonné et en regardant Julien.
Mais déjà le regard de l'abbé était moins dénué de toute humanité.
« Sincère, » répéta-t-il en baissant la voix et reprenant sa lecture.
« Je vous demande pour Julien Sorel une bourse. Il la méritera en subissant les examens nécessaires. Je lui ai montré un peu de théologie, de cette ancienne et bonne théologie des Bossuet, des Arnaud, des Fleury. Si ce sujet ne vous convient pas, renvoyez-le-moi. Le directeur du dépôt de mendicité, que vous connaissez bien, lui offre 800 francs pour être précepteur de ses enfants.
mon intérieur est tranquille, grâce à Dieu. Je m'accoutume au coup terrible. Vale et me ama. »
L'abbé Pirard, ralentissant la voix comme il lisait la signature, prononça avec un soupir le mot « Chélan ».«
Il est tranquille, » dit-il. « En effet, sa vertu méritait cette récompense. Dieu puisse-t-il me l'accorder, le cas échéant ?»
Il regarda le ciel et fit un signe de croix. À la vue de ce signe sacré, Julien sentit diminuer l'horreur profonde qui, depuis son entrée dans cette maison, l'avait glacé.
« J'ai ici 321 aspirants à l'état le plus saint, » dit enfin l'abbé Pirard d'un ton de voix sévère mais non méchant. « 7 ou 8 seulement me sont recommandés par des hommes tels que l'abbé Chélan. Ainsi, parmi les 321, vous allez être le 9e. Mais ma protection n'est ni faveur ni faiblesse. Elle est redoublement de soins et de sévérité contre les vices. Allez fermer cette porte à clé. »
Julien fit un effort pour marcher et réussit à ne pas tomber. Il remarqua qu'une petite fenêtre, voisine de la porte d'entrée, donnait sur la campagne. Il regarda les arbres. Cette vue lui fit du bien, comme s'il eût aperçu d'anciens amis.
« Loqueris ne linguam latinam ? Parlez-vous latin ?» lui dit l'abbé Pirard comme il revenait.
« Ita, pater optime. »
« Oui, mon excellent père, » répondit Julien, revenant un peu à lui. Certainement, jamais homme au monde ne lui avait paru moins excellent que M. Pirard depuis une demi-heure. L'entretien continua en latin. L'expression des yeux de l'abbé s'adoucissait. Julien reprenait quelque sang-froid. « Que je suis faible, » pensa-t-il, « de m'en laisser imposer par ses apparences de vertu. Cet homme sera tout simplement un fripon comme M. Massion. » Et Julien s'applaudissait d'avoir caché presque tout son argent dans ses bottes.
L'abbé Pirard examina Julien sur la théologie. Il fut surpris de l'étendue de son savoir. Son étonnement augmenta quand il l'interrogea en particulier sur les Saintes Écritures. Mais quand il arriva aux questions sur la doctrine des pères, il s'aperçut que Julien ignorait presque jusqu'au nom de saint Jérôme, de saint Augustin, de saint Bonaventure, de saint Basile, etc.
« Au fait, » pensa l'abbé Pirard, « voilà bien cette tendance fatale au protestantisme que j'ai toujours reprochée à Chélan. Une connaissance approfondie et trop approfondie des saintes Écritures. »
Julien venait de lui parler sans être interrogé à ce sujet, du temps véritable où avait été écrit la Genèse, le Pentateuque, etc.
« À quoi mène ce raisonnement infini sur les Saintes Écritures ?» pensa l'abbé Pirard, « si ce n'est à l'examen personnel, c'est-à-dire au plus affreux protestantisme. Et à côté de cette science imprudente, rien sur les pères qui puissent compenser cette tendance. »
Mais l'étonnement du directeur du séminaire n'eut plus de bornes lorsque, interrogeant Julien sur l'autorité du pape et s'attendant aux maximes de l'ancienne église gallicane, le jeune homme lui récita tout le livre de Monsieur de Maître.
« Singulier homme que ce Chélan, » pensa l'abbé Pirard. « Lui a-t-il montré ce livre pour lui apprendre à s'en moquer ?»
Ce fut en vain qu'il interrogea Julien pour tâcher de deviner s'il croyait sérieusement à la doctrine de M. de Maître. Le jeune homme ne répondait qu'avec sa mémoire. De ce moment, Julien fut réellement très bien. Il sentait qu'il était maître de soi. Après un examen fort long, il lui sembla que la sévérité de M. Pirard envers lui n'était plus qu'affectée. En effet, sans les principes de gravité austère que depuis 15 ans il s'était imposé envers ses élèves en théologie, le directeur du séminaire eût embrassé Julien au nom de la logique, tant il trouvait de clarté, de précision et de netteté dans ses réponses.
« Voilà un esprit hardi et sain, » se disait-il. « Mais corpus débile, le corps est faible. »
« Tombez-vous souvent ainsi ? »
dit-il à Julien en français et lui montrant du doigt le plancher.
« C'est la première fois de ma vie. La figure du portier m'avait glacé, » ajouta Julien en rougissant comme un enfant.
L'abbé Pirard sourit presque.
« Voilà l'effet des vaines pompes du monde. Vous êtes accoutumé apparemment à des visages riants, véritable théâtre de mensonges. La vérité est austère, monsieur. Mais notre tâche ici-bas n'est-elle pas austère aussi ? Il faudra veiller à ce que votre conscience se tienne en garde contre cette faiblesse. Trop de sensibilité aux vaines grâces de l'extérieur. »
Si vous ne m'étiez pas recommandé, dit l'abbé Pirard en reprenant la langue latine avec un plaisir marqué,
si vous ne m'étiez pas recommandé par un homme tel que l'abbé Chélan, je vous parlerais le vain langage de ce monde auquel il paraît que vous êtes trop accoutumé. La bourse entière que vous sollicitez, vous dirais-je, est la chose du monde la plus difficile à obtenir. Mais l'abbé Chélan a mérité bien peu. Par 56 ans de travaux apostoliques, s'il ne peut disposer d'une bourse au séminaire. » Après ces mots, l'abbé Pirard recommanda à Julien de n'entrer dans aucune société ou congrégation secrète sans son consentement.
« Je vous en donne ma parole d'honneur, » dit Julien avec l'épanouissement de cœur d'un honnête homme.
Le directeur du séminaire sourit pour la première fois.
« Ce mot n'est point de mise ici, » lui dit-il. « Il rappelle trop le vain honneur des gens du monde qui les conduit à tant de fautes, et souvent à des crimes.
Vous me devez la sainte obéissance en vertu du paragraphe 17 de la bulle Unam Ecclesiam de Saint Pie V. Je suis votre supérieur ecclésiastique. Dans cette maison, entendre, mon très cher fils, c'est obéir. » Combien avez-vous d'argent ?
Nous y voici, se dit Julien. C'est pour cela qu'était le très cher fils.
35 francs, mon père. Écrivez soigneusement l'emploi de cet argent. Vous aurez à m'en rendre compte. Cette pénible séance avait duré 3 heures. Julien appela le portier.
Allez installer Julien Sorel dans la cellule. Numéro 103,
dit l'abbé Pirard à cet homme. Par une grande distinction, il accordait à Julien un logement séparé.
Portez-y sa malle, ajouta-t-il.
Julien baissa les yeux et reconnut sa malle précisément en face de lui. Il la regardait depuis 3 heures et ne l'avait pas reconnue. En arrivant au numéro 103, c'était une petite chambrette de 8 pieds en carré, au dernier étage de la maison. Julien remarqua qu'elle donnait sur les remparts, et par-delà, on apercevait la jolie plaine que le Doubs sépare de la ville.
« Quelle vue charmante !» s'écria Julien.
En se parlant ainsi, il ne sentait pas ce qu'exprimaient ces mots. Les sensations si violentes qu'il avait éprouvées depuis le peu de temps qu'il était à Besançon avait entièrement épuisé ses forces. Il s'assit près de la fenêtre, sur l'unique chaise de bois qui fut dans sa cellule, et tomba aussitôt dans un profond sommeil. Il n'entendit point la cloche du souper, ni celle du salut. On l'avait oublié. Quand les premiers rayons du soleil le réveillèrent le lendemain matin, il se trouva couché sur le plancher.